Bonjour à tous, aujourd'hui on va partager avec vous le thème d'une conférence qui avait été traitée il y a quelques années et qui serait intéressant de mettre en lumière aujourd'hui. Alors le thème d'aujourd'hui c'est comment avoir un petit peu plus de chance en optant 5 nouvelles habitudes dans son quotidien. Alors c'est une petite histoire racontée et qui va mettre en lumière ces 5 habitudes. Alors la première habitude, c'est qu'il faudrait apprendre à chercher là où il ne faut pas. Alors comme tout le monde, vous avez certainement déjà eu besoin d'une information ou de l'aide d'une personne et comme mauvais réflexe, vous vous dites non, certainement qu'elle ne saura pas, qu'elle ne pourra pas m'aider, comment pourrait-elle savoir, ça ne sert à rien que je lui demande, c'est impossible. Et donc toutes ces réflexions nous donnent en fait de bonnes, en fait ce sont de mauvaises raisons, pour ne pas demander. Donc on se rassure soi-même d'avoir toutes les bonnes raisons de ne pas déranger, soi-disant, cette personne. Je suppose que ça vous est déjà tous arrivé. En fait, le cerveau humain renferme des millions d'informations. La plupart d'entre elles, nous les oublions. Et on ne serait même pas capable de lister tout ce que notre cerveau renferme comme informations. Et pourtant, on se permet de savoir et de décider ce que l'autre ne sait pas ou ignore. Et donc on cherche des excuses et tout est bon pour ne pas demander. Alors que le fait de ne pas demander n'est pas du tout une preuve d'intelligence, le fait de faire des suppositions, mais c'est plutôt toujours un automatisme de facilité et par extension de fuite pour ne pas sortir de sa zone de confort et aller vers l'autre personne, lui poser la question en ayant peur d'avoir évidemment un non dans la figure. Donc, partons du principe déjà que l'on trouve souvent l'information là où elle ne devrait pas y être. Donc déjà, accepter de commencer à chercher là où normalement l'info n'y est pas. Alors, ça vous est déjà certainement arrivé de trouver les clés de votre voiture dans la poche d'un de vos manteaux alors que personne ne les y a mises à la maison. Ça vous est certainement arrivé de trouver votre téléphone dans la cuisine alors que vous n'y êtes pas allé du tout dans la cuisine aujourd'hui. Très bizarrement. Vous avez certainement retrouvé un ancien document dans un placard alors que vous n'avez pas ouvert ce placard depuis des années. Voilà. On a des certitudes comme ça et des incohérences, des incompréhensions qui nous arrivent et on les accepte en se disant « Tiens, c'est bizarre. » Donc, par exemple, dans une bibliothèque de médecine, sachez que vous pourriez trouver un ouvrage sur le marketing. Ben oui, c'est bizarre, mais... Il y a un lien qui pourrait exister entre le marketing et la chirurgie. Et par exemple, au rayon 5B, vous trouverez la chirurgie esthétique malmenée par le marketing de certaines agences de voyage. Comment parler de marketing dans une faculté de médecine? Voilà, c'est possible. La nature fait vraiment bien les choses parce que pour trouver un objet, il faut toujours le chercher là où il ne doit pas être. Et donc, c'est déjà une information de commencer à chercher là où on n'a pas envie de chercher. Les informations, c'est comme les objets, c'est la même chose. Elles se trouvent toujours là où elles ne devraient pas être. Et quand on les trouve, on se dit, enfin, je comprends pas, ça n'a aucun sens. Et on bloque plus sur la logique de la localisation de l'information plutôt que d'être content d'avoir trouvé l'info. Alors, il faut jamais penser, croire, supposer, estimer. Il faut arrêter d'être certain de savoir les choses. Il faut demander, poser la question, se renseigner. Sans imaginer la réponse. Donc désormais, quand vous cherchez quelque chose, fiez-vous à l'expérience d'une personne, d'accord, et non uniquement à ses compétences. Donc ne dites pas, cette personne ne travaille pas dans ce domaine, elle ne sera pas au courant de ça. Ne dites pas, cette personne habite là, donc elle n'aura aucune information sur ça. Donc les suppositions, on va les mettre de côté. La deuxième habitude, donc, c'est de se fier à l'expérience d'une personne dont on n'est pas toujours au courant. Et donc, il faut demander à n'importe qui qu'on croise sur notre chemin ce qu'on a envie de trouver comme info. Alors, l'histoire ici, c'est qu'en fait, ma grand-mère me disait toujours, quand tu as mal quelque part, demande conseil à celui qui a été malade et pas au médecin. C'est un vieux proverbe qui dit qu'en fait, le malade, il a tellement souffert de son mal qu'il a plus cherché à guérir que le médecin qui aide avec beaucoup de recul le malade. Donc, si vous demandez, en fait, par exemple, quelle compagnie aérienne est la plus sûre, bah, vous n'allez pas demander uniquement à l'hôtesse de vente, à l'agence de voyage. Mais vous allez chez le pédiatre qui prend l'avion tous les 2 mois pour soigner les enfants à travers le monde. Et c'est lui qui sera le mieux placé pour vous répondre. Parce que, un, il est client et il est vraiment dans la même situation que vous. Il fera preuve d'empathie, de compassion par rapport à votre souci de bien-être. Donc, si vous cherchez une information sur une entreprise, avant de signer avec elle un contrat, à votre avis, qui pourra mieux vous renseigner sur la vie de cette entreprise, la culture, les primes ? Alors, vous pensez par exemple que c'est l'agence de recrutement qui va pouvoir vous renseigner. Je vous conseille plutôt, d'en parler avec la femme de ménage ou le concierge qui travaille dans cette société depuis 25 ans. Et ces deux personnes pourront vous donner des informations que vous n'aurez jamais, ni officiellement, ni sur un site, ni même par la personne qui est censée vous renseigner. Parce que la personne qui est censée vous renseigner vous donnera les informations qu'elle aura envie de vous donner. Tandis que le concierge ou la femme de ménage partagera avec vous de bon cœur les informations, car encore une fois, il fera preuve d'empathie et de compassion à votre besoin d'information. Donc là, vous trouverez la réponse, la vérité et la réalité. Avouez qu'il serait bizarre de penser, ou vous n'avez jamais pensé à demander la réputation d'une entreprise à la femme de ménage ou au gardien de la porte. Et pourtant, ce sont les personnes les mieux placées pour nous renseigner. Et en effet, en fait, les compétences d'une personne, c'est la face théorique de l'information. Tandis que l'expérience d'une personne va vous révéler la face pragmatique et réelle de l'info. Donc, dans ce cas-là, la femme de ménage ou le concierge vous dira la réalité de l'entreprise, comment ça se passe au quotidien, et pas selon les publicités ou ce qu'on en entend dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, par exemple, ici, quelqu'un qui sera malade, il va vous dire, donc il m'arrive souvent pour soigner mon enfant de ne contacter aucun médecin, mais plutôt de contacter ma grand-mère et de lui demander. De votre temps, quand un enfant avait tel ou tel symptôme, comment vous le guérissiez. Et donc là, la grand-mère pourra vous répondre d'une façon beaucoup plus pragmatique, sans conséquences, sans effet secondaire, j'ai envie de dire, pour vous aider. Mais dans le domaine professionnel, en fait, c'est la même chose. Le fait de choisir la personne qui est passée par là, c'est comme un mentor. On en a parlé dans d'autres épisodes. C'est comme un mentor, c'est la personne la mieux placée pour vous répondre. Donc, par exemple, si vous ne savez pas comment joindre le directeur du département marketing d'une entreprise, vous n'allez pas demander à la réceptionniste qui va certainement vous répondre qu'il faut laisser un message à telle adresse mail. Ensuite, l'assistante du département vous recontactera et blablabla et blablabla. Là, c'est la procédure théorique. Elle est correcte, mais pas nécessairement efficace. Voyons plutôt encore une fois du côté du gardien de la porte. Et là, en lui posant la même question, ce dernier vous répondra que le directeur en question sort tous les soirs à 18h15, exact, car il va au terrain de sport. Et de plus, il déjeune régulièrement dans tel restaurant. Voilà, ici deux informations qui sont correctes, qui sont vérifiées, car elles sont dues à l'expérience. Donc, en vous postant devant la société ou devant la salle de sport, vous aurez 10 fois plus de chances, si pas plus, de rencontrer ce directeur, de lui donner votre CV, plutôt que de passer par la réceptionniste ou l'assistante. Donc, se fier à l'expérience d'une personne plutôt qu'aux compétences officiellement connues. Donc, quand vous voulez contacter une personne, pensez toujours au concierge, à la femme de ménage, à la personne qui n'est pas censée vous donner l'information. La personne qui n'est pas censée vous donner l'information sera toujours la personne la mieux placée pour vous renseigner. Alors, la troisième habitude qu'on peut adopter, c'est que tout le monde peut vous aider d'une façon ou d'une autre. Donc, si la personne ne vous donnera pas toute l'information, elle vous donnera certainement une partie de l'info. Et c'est en cumulant une petite info de 10 personnes différentes, par exemple, que vous aurez toute l'information dont vous aviez besoin au départ. Donc, d'une façon ou d'une autre, toute personne peut vous aider, vous guider, vous orienter pour atteindre votre objectif final. Dans le pire des cas, la personne ne pourra pas complètement vous aider, mais en tout cas, vous avez partagé l'information. Alors, vous allez me dire, ça sert à quoi ? En fait, à chaque fois que vous aurez fait part de votre demande à une personne, vous venez de l'afficher en fait sur une base de données, comme si c'était un site vivant ou un réseau vivant. Et chaque personne qui sera au courant de votre besoin ou de votre demande l'aura dans son esprit. Et si une conversation venait à apparaître dans son quotidien et ça lui fait penser à votre demande, eh bien, elle en parlera. Et donc, c'est comme si vous lanciez une dizaine de commerciaux, vraiment, dans votre réseau, qui vont partir inconsciemment à la recherche de l'information pour vous. Et donc, vous avez beaucoup plus de chances de trouver cette info. Parce qu'en fait, quand on affiche sa demande sur un réseau social ou sur un site d'annonce, c'est la version virtuelle. Et le fait d'en parler à 10 personnes réelles, ben c'est un petit peu la version réelle d'un site d'annonce. Donc, imaginez que vous cherchez un distributeur de cuir pour votre entreprise de chaussures, par exemple. Et dans votre entourage, personne ne travaille dans le cuir. Donc, la première réaction serait que personne ne peut vous aider et donc vous vous demandez à qui vous pourriez bien vous adresser. Alors, à moins qu'un distributeur de cuir ne tombe du ciel, il faut penser à un moyen efficace pour rechercher, mais surtout dans un premier temps, diffuser l'information de votre besoin. Donc la première étape, c'est chercher à diffuser l'information au maximum et la faire connaître de tous. Alors comment ? En parlant de votre besoin à chacune de vos conversations et insister pour que chacun de vos interlocuteurs fasse de même, vos amis, la famille, les parents à l'école, etc. En supposant que vous auriez parlé à 10 personnes aujourd'hui, par exemple, et que chacune de ces 10 personnes en aura parlé à 10 personnes qu'elles ont rencontrées au cours de la semaine. Bah, cela fait un total de 10 personnes fois exposant 10, on est plus d'une centaine de personnes qui seront au courant de votre demande en moins de 24 heures. C'est le pouvoir exponentiel du réseau. Donc en moins de 24 heures, une centaine de personnes a votre info en tête. Je vous laisse faire le calcul. Si les 100 personnes en parlent encore à une dizaine de personnes, on arrive à 1000 personnes en moins d'une semaine. Et là, vous vous rendez compte du nombre d'informations que chacune de ces personnes va venir diffuser sur vous. Et vous ne savez pas du tout laquelle qui aura le plus de chances de vous aider. Vous n'en avez aucune idée. Ça peut être un étudiant, ça peut être un avocat, ça peut être le boucher, ça peut être un commercial. Chacune de ces personnes a des personnes dans d'autres domaines d'activité très différents dans son réseau. Et donc, le boucher a peut-être un client qui travaille avec quelqu'un qui fournit du cuir. Donc, c'est au deuxième, au troisième degré dans votre réseau. Donc, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de son réseau, même si les gens n'ont pas l'air d'être proches de façon directe ou indirecte au domaine d'activité qui vous intéresse. Donc, il faut toujours demander à tout le monde et diffuser l'info. Alors ici, par exemple, vous pensez à l'avocat qui, de par son milieu social et sa clientèle, connaîtra certainement un fabricant de cuir. Donc là, on est déjà dans une supposition. Peut-être que l'avocat pourrait vous aider. Mais cette fois-ci, ce sera une autre personne qui, par son réseau de connaissances, vous aidera encore mieux. Alors, dans ce cas-ci, la personne qui sera à même de vous aider sera le boucher. Pourquoi ? Parce que son fournisseur de viande a un dépôt de viande à la campagne, au milieu des agriculteurs et fermiers. Jusqu'ici, aucune logique. C'est normal. Ces agriculteurs et fermiers rencontrent qui ? Rencontrent souvent des tanneurs. Et les tanneurs, eux, travaillent le cuir. Et en fait, ces tanneurs viennent proposer, l'achat des peaux de vaches. Et donc, ces derniers sont ceux-là même qui traitent la peau des vaches et traitent eux-mêmes avec le distributeur de cuir. Ce distributeur achète ces peaux aux tanneurs, ensuite les revend pour les fabriques de chaussures, de sacs, de meubles. Vous voyez que la chaîne peut paraître longue, mais c'est le résultat qui importe. Et au final, vous avez réussi à avoir votre info via un boucher. Ce qui, dans notre logique primaire, est assez difficile à comprendre. Donc, mieux vaut demander en se disant « on ne sait jamais » plutôt que de garder l'information pour soi en étant certain que jamais personne ne pourra nous aider. Si vous comprenez qu'un boucher pourrait vous aider en moins de 4 jours à trouver un tanneur de cuir, vous aurez compris que toute personne a une personne qui est dans un domaine d'activité complètement différent à première vue de son domaine. Donc désormais, dites-vous que tout le monde peut vous aider d'une façon ou d'une autre. Peu importe comment, mais tout le monde va faire un petit geste et au final vous aurez l'information dont vous avez besoin. Alors la quatrième habitude, c'est de demander surtout à ceux qui ne pourraient certainement pas vous aider. Donc les premières personnes qu'on retire de nos suppositions, on retrouve ça d'ailleurs souvent dans les séries américaines quand on a un détective qui enquête sur un meurtre. Les bons détectives prennent en considération les premières personnes qu'on retire de l'enquête, ceux qui ne sont pas du tout soupçonnés. Et ils disent justement qu'à l'inverse, ça pourrait être les premières personnes concernées. Mais quand on a envie d'avancer dans notre vie, c'est la même chose. Les personnes qui nous semblent loin de notre vision de vie, vision d'objectif, sont les premières personnes. C'est comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre. C'est toujours la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Alors, il faut garder un autre élément ici à l'esprit, c'est que chaque personne est différente de par ses études, son emploi, sa culture, son domaine d'activité et donc son caractère. Dans l'exemple qu'on a donné de la recherche du distributeur de cuir, vous aurez pu certainement trouver plus vite et plus facilement via l'avocat. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Sa clientèle est large, variée. Elle vous permettrait, en gagnant une ou deux étapes, de trouver ce distributeur et donc pas besoin d'en parler à qui que ce soit. Mais pourquoi le boucher était plus efficace que l'avocat, à votre avis? Parce qu'en fait, son caractère et tout un ensemble d'éléments qui sont propres à sa personne, à sa personnalité, ont fait qu'il a décidé, consciemment ou inconsciemment, de vous aider et a été actif dans sa recherche. C'est-à-dire qu'il a décidé d'en parler à chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un. Et ces traits, en fait, ces traits de caractère sont vraiment indépendants et n'ont aucun lien avec la formation ou le domaine d'activité. Et c'est exactement propre à la personne. C'est exactement pour ça qu'on ne peut pas savoir qui est-ce qui pourrait nous aider. Ça peut être une personne qui ne travaille pas, mais qui sera actif et réactif et qui va faire plus d'action que la personne qui est sur le marché de l'emploi dans le domaine dans lequel on cherche l'information et qui pourtant est une personne timide et qui n'ose jamais demander quoi que ce soit. Donc certaines personnes, en fait, de par leur caractère, vous transfèrent ne fût-ce qu'un numéro de téléphone pour vous mettre en contact avec une personne qui pourrait peut-être vous aider. Ce sont des gens qui ont un caractère positif, optimiste, qui sont actifs et réactifs et parfois même proactifs. Donc, ces cinq traits de caractère n'ont vraiment rien à voir avec le domaine d'activité de la personne ou la catégorie sociale. Donc, quoi qu'il en soit, la personne ici qui a commencé la chaîne et au bout de 3-4 personnes faisant le même geste, anodin, aussi minime soit-il, vous trouvez finalement l'information que vous avez cherchée. Dans son caractère, le boucher était coopérant et donc ce trait de caractère est assez un trait de caractère naturel. Donc on l'est ou on ne l'est pas. Et ça, personne ne peut maîtriser cette force de caractère. Personne ne peut connaître la vraie nature des gens quand on a besoin de quelque chose. On ne sait pas réellement qui est timide ou qui va oser aller chercher l'information pour nous faire plaisir. Donc certaines personnes, en fait, par leur nature, sont plus efficaces. L'idéal, c'est de les reconnaître, ces personnes, et de les contacter systématiquement en priorité, car elles feront la démarche d'aller chercher l'information que vous avez besoin. Donc désormais, sans vous poser de questions, quelle que soit la personne que vous avez devant vous, faites-lui savoir toutes vos demandes, tous vos besoins. Il suffit, je dis bien il suffit, que cette personne vous apprécie pour qu'elle lance les recherches pour vous aider. Enfin, la cinquième habitude, il ne faut pas avoir peur du non. Il peut réserver de bonnes surprises. Alors, pour trouver le courage de faire une demande, évidemment, dites constamment « au pire, c'est un non ». Donc, apprenez à préparer ce non et qu'il ne vous tuera pas. Imaginez que la pire des situations, c'est que la personne vous dise non. Ensuite, vous réalisez, en fait, ça ne vous a pas tué. Donc, ça coûte quoi de demander ? Dans certaines situations, il vous arrive de vous dire « je ne vais pas demander ça », il va certainement dire non. Je pense qu'il va dire non. Je ne crois pas qu'il va dire oui. Ça m'étonnerait. Encore une fois, mauvais réflexe. Comment savons-nous la réponse d'avance déjà ? Qui sommes-nous pour juger, pour supposer que la personne sait quelque chose que nous savons ? Est-ce qu'on a une boule de cristal ? Est-ce qu'on est des devins ? Non, pas du tout. Alors quand vous avez une demande à faire, n'imaginez pas la réponse. Dites-vous juste Je vais demander à 10 personnes et sur les 10, il y en a 2 qui me diront oui. Préparez-vous à recevoir 8. C'est juste une question de sécurité. Et un oui peut vouloir dire non. Par exemple, pourriez-vous me livrer la marchandise cet après-midi ? Le fournisseur vous dira « Oui, bien sûr, notre camion livreur est à 300 km d'ici ce matin, donc les frais supplémentaires s'élèvent à 20% de la somme totale de la commande, et donc la livraison se fera vers 22h. » Alors, sincèrement, vous prenez cette réponse pour un oui ? Ben, moi pas. Donc, les conditions peuvent nuancer la réponse, voire la renverser complètement. Si une réponse peut commencer par oui ou non, elle peut souvent être suivie, peut-être, d'autant de conditions que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, le fait qu'une personne vous dise non, ça ne veut pas dire non. Elle dit non peut-être parce qu'elle pense qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle a peur, parce qu'elle hésite. Et parfois, le fait de discuter avec elle, d'aller un petit peu plus loin dans la question, dans le besoin, vous pouvez décrocher un oui ou vous pouvez décrocher un « je vais faire un effort ». Vous pouvez décrocher un « je vais faire la recherche pour toi ». Il faut rassurer en fait la personne si vous avez une personne timide en face de vous mais qui pourrait vous aider. Donc le non, parfois, n'est pas lié à vous, mais il est lié au caractère de la personne comme on en a parlé. Donc, il est préférable de se dire qu'une personne ne sache vous aider sur le moment, mais qu'elle fera, à un moment donné, partager l'information ensuite et vous finirez par recevoir le retour du boomerang, même si c'est quelques jours plus tard. Donc, dans ce cas de figure, il est conseillé quoi ? D'anticiper la réponse de la personne et de lui dire « ne me répondez pas maintenant ». Renseignez-vous autour de vous. Ensuite, dites-moi si vous pouvez faire quelque chose pour moi. Déjà, vous mettez la personne à l'aise. Et dès que la personne semble hésiter, vous insistez sur le fait de « voilà, moi, je te le dis et vraiment prends ton temps, ne me donne pas de réponse maintenant si tu as le temps, si ça ne te dérange pas. Et si tu ne te sens pas capable ou tu n'oses pas, ce n'est pas un souci. » Vous mettez la personne à l'aise. Et donc, à une demande, toutes les réponses sont possibles. Sans doute que le non est la réponse qui pourrait vous offrir le plus d'options supplémentaires. Parce que souvent le non, c'est de la timidité, de la peur. Et c'est pas du tout le « j'ai pas envie de t'aider » ou « je n'ai pas l'information ». Voilà en résumé 5 habitudes qui peuvent changer votre quotidien, qui pourraient vous donner un petit peu plus de chance. Je vais récapituler les 5. Habitudes. Alors la première, c'est qu'il faut apprendre à chercher là où il ne faut pas. Que ce soit une pièce dans la maison, que ce soit une ville, que ce soit un département, que ce soit un immeuble, que ce soit un organisme. Deuxième, fiez-vous à l'expérience d'une personne et non uniquement à ses compétences. Une personne, vous la connaissez, mais vous ne connaissez pas tout son parcours. Et donc dites-vous que peut-être dans son parcours, elle a eu l'expérience qui pourrait être liée à votre besoin. Donc, il faut demander à toutes les personnes qu'on connaît. Troisième habitude, tout le monde peut vous aider d'une façon ou d'une autre. Donc, demandez. Chaque information, chaque petit contact, chaque détail peut vous mener à la réponse finale. Quatrième habitude, demandez surtout à ceux qui ne pourraient certainement pas vous aider. D'accord ? Donc, les personnes qui ont l'air d'être loin, loin de ce que vous avez besoin, comme notre cher boucher, eh bien, demandez-leur, ça ne vous coûte rien. Enfin, la cinquième habitude, n'ayez pas peur du non. Les gens sont timides, ont peur ou n'osent pas faire la démarche de la recherche et donc ils préfèrent dire non. Donc, mettez les gens à l'aise, dites-leur que vous vous avez demandé une chose par acquis de conscience et qu'ils prennent leur temps au cas où ils ont l'info. Le fait de les mettre à l'aise ne leur met pas la pression pour les gens timides et donc, ils enverront un message, un SMS, quelque chose pour vous aider d'une façon ou d'une autre pour demander l'information à quelqu'un. Voilà les 5 habitudes pour avoir un petit peu plus de chance au quotidien. À très bientôt. Deuxième partie de cet épisode, comment avoir un peu plus de chance en adoptant 5 nouvelles habitudes. Alors, on va raconter ici l'histoire de Reda et Nora, une histoire avec une demande qui aurait dû récolter plus d'un non, qui aurait dû récolter beaucoup de non et presque pas de oui. Alors, c'est l'histoire de Reda, 45 ans, dentiste, et Nora, 38 ans, architecte. Alors, il y a à peu près 3 ans de cela, Reda et Nora décident de vouloir faire le tour du monde et de tout laisser derrière eux. Routine, travail, famille, maison, voiture. Seul petit bémol, ils ont 2 enfants, Sarah 7 ans et Amine 12 ans. Alors jusqu'ici, qu'en pensez-vous? Ils vont partir, ils vont pas partir? La majorité des gens sont certains qu'ils ne partiront pas. Les certitudes et les suppositions dont on a parlé dans la première partie. Alors, vont-ils partir et laisser leurs enfants? Vont-ils annuler leur projet? Finiront-ils par partir? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont dû sacrifier pour pouvoir réaliser leur objectif? Alors, il faut avouer que Nora a été très longtemps contre cette idée d'aventure et elle a invoqué principalement le problème scolaire qu'elle allait se poser pour ses enfants lors de ce projet de voyage. Et donc, Reda a bien décidé de réaliser son rêve et de parcourir le monde en mobilhome avec sa famille. Se dit une chose, il doit y avoir une solution, je vais me renseigner et on verra. Reda se met donc à en parler autour de lui et fait savoir son désir de trouver une solution. À partir de là, Reda reçoit chaque jour des mails, des appels de personnes de son entourage qui se mettent à réfléchir avec lui à une potentielle solution qui pourrait arranger toute la famille. Les semaines passent et toujours rien de concret comme solution. Reda ne désespère pas, mais il pense que plus de personnes seront au courant de sa requête et plus il aura de possibilités à étudier, à examiner. Alors, chaque personne est différente, comme on en a parlé, et chaque personne pense différemment, par sa culture, de par ses études, son domaine d'activité et sa propre logique et sa personnalité. Donc, un scientifique ne pensant pas comme un littéraire, un boucher ne voit pas les choses comme un boulanger et un étudiant ne réfléchit pas comme un cadre. Chacun, de par ses expériences et son vécu, procède donc différemment pour trouver une solution. C'est ce qui va arriver à Reda. Donc, revenons à Reda et sa famille. Alors, un jour, Reda reçoit un appel téléphonique de M. Bénard, un ami à un de ses amis qui connaît sa situation et a pris connaissance de son besoin. L'enseignement de ses enfants dans le cas du tour du monde était un problème pour Reda. Alors, cette personne lui demande alors de bien vouloir passer à son bureau au consulat. Quelques jours plus tard, Reda va se rendre au bureau de M. Bénard. « Bonjour M. Bénard, je vous remercie de me recevoir et de bien vouloir m'aider dans ma procédure de recherche. » On ne parle pas encore de solution ici. « Oui M. Reda, donc c'est avec un plaisir que je vous reçois. » J'étais donc à une soirée, en fait, il y a une semaine, et j'ai entendu parler de votre projet de tour du monde et de votre souci pour l'enseignement pour vos enfants. Et en fait, ben, j'ai une proposition à vous faire qui pourrait certainement vous arranger et satisfaire tout le monde. En effet, Monsieur Reda, il va falloir faire un petit effort et un sacrifice qu'il y aura de votre part et de la part de votre épouse. Là, Reda, tout content, les yeux écarquillés, lui dit « Aucun problème pourvu qu'une option soit envisageable dans ce sens, je suis preneur. » Donc en fait, Monsieur Reda, lui répond Monsieur Bénard, « Votre ambassade en fait peut vous envoyer les programmes scolaires dans chaque ambassade de votre pays, selon le pays où vous êtes. Et de plus, vos enfants peuvent ensuite passer les examens dans votre ambassade, selon l'endroit où vous vous trouvez. » Alors, l'effort à fournir, ce sera que vous et votre épouse serez les professeurs, évidemment. Et vous devez accompagner vos enfants pour qu'ils soient prêts à passer ces examens. Vous devrez les suivre et leur faire respecter le programme selon un programme donné qui vous sera remis avant votre départ. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, vous serez un petit peu suivi par votre pays, par votre état civil, dans les différentes ambassades. Et là, Reda répond, bah, écoutez, Monsieur Bénard, vraiment... j'ai rien à dire, c'est vraiment une solution sur mesure, j'aurais pas pu rêver mieux. Je vais d'ailleurs annoncer la nouvelle à mon épouse directement, je pense qu'on est presque sur le point de plier bagages car c'était le plus gros obstacle à notre projet. Alors M. Bénard lui répond, bah, écoutez, vous pouvez passer dans un mois, prendre chez moi le programme des 6 prochains mois pour vos enfants et dans 5 mois et demi, donc d'ici 11 mois, vous vous rendrez à l'ambassade. D'accord ? Et vous nous préviendrez dans quel pays vous allez retirer le programme des 6 prochains mois et ainsi de suite. Et nous pourrons alors nous vous les envoyer dans le pays de votre choix. Et pour tout autre document non officiel, on peut rester en contact avec vous par email. Donc là, Reda est super heureux, joyeux, il ne s'y attendait pas à cette réponse. Je vous remercie infiniment, Monsieur Bénard. Je vous dis à dans 4 semaines et je vais compter les jours. Au plaisir, Monsieur Reda. Donc, voilà comment le besoin de Reda Fanny a finalement été satisfait. Les solutions n'ont pas seulement existé, mais il y a eu des solutions sur mesure et qui existaient déjà. Donc, Reda n'a pas dû créer quoi que ce soit. Donc, tout ce que Reda a dû faire ici était de diffuser son besoin et sa demande. Il a continué, comme ça, à le faire pour chaque étape de son projet. Donc, ça a été la même chose pour les déplacements. Ça a été la même chose pour la sécurité. Ça a été la même chose pour la santé. Donc, en fait, il s'est rendu compte, en ayant quelques contacts via l'ambassade, qu'ils l'ont renvoyé vers une association. Qu'il a ensuite présenté à certaines personnes qui avaient tout simplement déjà vécu cette expérience de voyage autour du monde pendant une année, deux années. Certains l'ont fait pendant 3 ou 4 ans. Et donc là, Reda était vraiment soulagé parce qu'il s'est dit, en fait, je ne suis pas le seul. D'autres personnes l'ont fait avant moi. Ils ont réussi. Ils ont eu des difficultés, mais ils vont me faire part de leur expérience. Donc, je vais gagner énormément en obstacles et en défis à relever. Et je suis soulagé parce qu'au final, j'ai des mentors. Je vais avoir des mentors dans ce voyage autour du monde. Je vais pouvoir être en contact avec ces gens via le téléphone, via les réseaux sociaux. Et je vais pouvoir être coaché, être mentoré par ces gens. Ce qui me permet vraiment d'avancer en toute quiétude. Du fait que ces gens ont traversé exactement les mêmes situations que moi et sont passés par toutes les étapes administratives, financières, logistiques, culturelles dans les pays, tout ça. Et donc, Reda a vraiment été soulagé. Il a partagé ça avec son épouse Nora, qui n'a pas trouvé grand-chose à dire parce que pour elle, c'était pratiquement impossible comme défi à relever. Elle se disait, voilà, on peut tout régler, la logistique, les finances, le boulot, mais la scolarité, notre État ou en tout cas aucun gouvernement officiel ne nous permettra de voyager avec nos enfants comme ça, en toute liberté. Et finalement, Reda y a cru et c'est finalement arrivé. Donc voilà, dans une des situations les plus improbables, comment faire suivre son enfant de par le monde, la situation a été résolue. Chaque problème, une solution. Et donc, nous avons pris ici un exemple vraiment extrême pour pouvoir montrer et vous montrer que les petits défis qu'on rencontre au quotidien, dites-vous juste qu'il y a déjà quelqu'un qui est passé par là. Et c'est votre mentor. Votre futur mentor qui pourra vous accompagner. À très bientôt pour un prochain épisode. Revoilà pour la suite de cet épisode sur les 5 habitudes pour avoir un petit peu plus de chance. Alors ici, c'est l'histoire de Yacine, 45 ans, qui cherche un directeur des ventes pour son entreprise et donc le fait savoir à tout son réseau. Donc Yacine a vraiment respecté les 5 habitudes. Il a demandé à tout son réseau, même aux personnes qui n'étaient pas concernées, même aux personnes qui n'étaient pas dans ce domaine, et même les personnes dont il était certain qu'elles ne pourraient pas l'aider. Et donc il a vraiment partagé cette info à un maximum de personnes en espérant que chacun fasse une petite action, si minime soit-elle, et qu'il puisse atteindre son objectif. Il écrit donc son message, que voici. Je restructure mon entreprise, je suis à la recherche d'un directeur des ventes pour au maximum d'ici 6 mois, donc soit le 30 juin. Il sera formé en été, en juillet, août, il sera donc prêt en septembre. Donc il cherche une personne disponible fin juin. Son ami Corentin écoute attentivement le message qu'il écrit et donc lui propose de l'aider à chercher. À partir de ce moment-là, Corentin, très, très réactif et très aidant avec son ami, il se met à chercher un directeur des ventes libre au plus tard, au mois de juin. Pas avant, pas plus tard. Et donc, dans ses recherches, Corentin ignore toute proposition au-delà de cette date, qu'elle soit intéressante ou non. Donc, il a trouvé des très bons profils, mais comme la personne n'était pas libre avant septembre, il a effacé ces profils-là. Donc, pendant ce temps-là, Yacine recrute une personne qui, par hasard, en plus de son poste actuel, va pouvoir diriger les ventes. Et donc, au moment où Corentin est en train de l'aider à chercher, Yacine, en fait, a réglé son problème. Et donc, les ventes de l'entreprise seront gérées par cette nouvelle recrue. Et le pic des ventes aura lieu en décembre. Et donc, il se dit, c'est bon, je suis assuré, cette personne sera là. C'est alors qu'arrive ce qu'il ne devait pas arriver. L'un imprévu. C'est alors que qu'un nouveau problème apparaît et que cette recrue en fait quitte l'entreprise au mois de septembre. Et que là, Yacine se trouve devant un problème d'urgence. Il lui faut un directeur de vente disponible tout de suite. Et là, son ami Corentin lui répond, lui dit, mais tu m'as dit que tu n'en avais plus du tout besoin et que de toute façon, la personne que tu voulais, elle devrait être libre en juin. Donc moi, les profils que j'avais gardés à l'époque, c'était uniquement ceux qui étaient disponibles en juin. J'ai pas gardé les autres. Et là, Yacine lui dit, c'est vrai que je t'avais donné en fait trop de critères de sélection. J'avais donné la limite de la disponibilité. Je t'avais dit de pas garder ceux qui étaient bons, même s'ils étaient libres au-delà de cette date. Et maintenant, on se retrouve avec un vrai manque d'informations. Là, c'est vrai que j'ai vraiment fait une gaffe. Et là, Corentin lui dit, écoute, c'est vrai, tu avais vraiment insisté sur le fait des différents critères et surtout la disponibilité. Et donc, moi, j'en avais trouvé énormément qui seraient disponibles en septembre parce que tu sais que les gens voulaient partir en vacances en été. Donc, il y en avait plein qui étaient prêts à démarrer en septembre. Mais j'ai plus du tout les profils. Et donc là, Yacine lui dit, écoute, je suis vraiment désolée de t'avoir fait perdre ton temps, j'imagine. Et Corentin lui dit, écoute, oui, on a vraiment perdu du temps et surtout que je les avais sélectionnés, triés, j'avais fait vraiment un travail de fond. Et là, en fait, il faut recommencer tout à zéro la recherche. Et donc maintenant, écoute, je veux bien te re-aider à chercher. Et qu'est-ce que tu cherches maintenant exactement? Et là, Yacine lui dit, ah non, on va pas m'y reprendre une deuxième fois. Cette fois-ci, tu te contentes de chercher un directeur des ventes, c'est tout. On verra pour tout le reste des critères. Et donc là, Yacine et Corentin se mettent à rigoler de la situation. Donc Yacine en a pris vraiment une bonne leçon de cette expérience, car il ne se serait jamais retrouvé dans cette situation s'il n'avait pas vu plus large que ce qu'il avait besoin, s'il n'avait pas en même temps considéré qu'un imprévu pouvait arriver. Ça fait partie aussi du professionnalisme, de la maturité. Et donc, la prochaine fois, il a décidé de se contenter de diffuser une information beaucoup plus large pour pouvoir ensuite sélectionner. Et donc Yacine se dit, vraiment, c'est vrai que j'ai pas réfléchi. Je préfère me retrouver en juillet-août avec 5 profils disponibles et c'est moi qui choisis le meilleur, plutôt que de ne pas en avoir du tout comme la situation dans laquelle nous sommes. Donc l'erreur qu'ici a fait Yacine, c'est un, d'envoyer une demande trop précise. Donc les gens ne feront que répéter ce que vous avez demandé, ne verront pas plus large, d'accord? Et la deuxième chose, c'est qu'il a, il pensait maîtriser le temps en pensant en recruter quelqu'un en juin, le former en septembre, en été, le faire démarrer en septembre. Et là, finalement, c'est le temps qu'il a maîtrisé, puisque là, il s'est retrouvé dans un besoin urgent. Et donc là, au final, voilà, quand on est dans un cas d'urgence, il sera prêt à recruter un directeur des ventes en plein septembre, sans passer 2 mois le former, car il va un peu improviser avec lui sur le terrain, vu l'urgence du pic des ventes en décembre. Donc, la leçon à tirer ici, c'est quand vous envoyez une demande, vous cherchez quelque chose, faites large, et ensuite vous procéderez à la sélection, à la présélection et au choix, et vous pourrez prendre votre décision dans un vrai luxe de voir ce qu'il y a de mieux. D'ailleurs, il y a un conseil d'un grand coach en entreprise qui disait, prenez beaucoup, beaucoup de temps pour recruter et licencier rapidement. Donc, le plus important, c'est de recruter dans cette histoire-là. Mais l'information, pour trouver la bonne, il faut vraiment prendre son temps. Donc, la prochaine fois, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À très bientôt.